Dans la série des grands entretiens portant sur les discriminations, le racisme, l'antisémitisme et autres injustices dont nous parlons sur Radio Prévert, nous recevons aujourd'hui Michel Bonfelli. Bonjour.
Bonjour, Jocelyn.
Merci d'avoir accepté de participer à ce programme.
Merci d'avoir invité.
Alors, pour tout dire aux auditeurs, au départ, nous voulions inviter Saint-Michel, que vous connaissez bien.
Oui, bien sûr, c'est mon nom de flâneur, en fait. C'est mon pseudonyme, mon blaze.
Exactement. Et puis, nous nous sommes aperçus qu'au-delà de Saint-Michel, il y avait un homme qui peut avoir de multiples facettes, hein.
Oui, c'est ça.
Artiste, parolier, producteur, enseignant et chercheur en sciences sociales.
Oui, c'est ça. Je termine une thèse de doctorat que je rends à mon directeur d'études, Jean-Louis Fabiani, qui m'a demandé quelques années de travail qui traitent sur les cultures urbaines. Voilà, pour tout vous dire.
Alors des cultures urbaines, justement, ça pourrait aussi être un des aspects à évoquer dans cet entretien qui porte sur les enjeux de notre société, des enjeux de notre temps aujourd'hui dans l'actualité. On parle beaucoup de problèmes de discrimination, de racisme, avec en point d'orgue, si j'ose dire, ce qui s'est passé aux États-Unis, avec un nom qui est assez évocateur, Michel Bonfelli, George
Oui,
Floyd notamment.
oui. Disons qu'il y a eu une forme d'émotion mondiale suite à l'affaire George Floyd, même si vous voulez, aux États-Unis, c'est un fait qui est courant, c'est-à-dire les faits de violence policière avec les populations noires en première ligne. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que la Pour la première fois, en fait, on peut dire ce meurtre, cet assassinat, a été filmé, et la vidéo est devenue virale, elle a fait le tour du monde. Nous tous, en tant que, finalement à la mort de ce pauvre homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lors d'une interpellation, il était au sol, et avec les genoux du policier, Derek Chauvin, on l'a vu pendant 8 minutes agoniser en disant qu'elle ne pouvait plus respirer. I can't breathe, la fameuse phrase a été reprise, est un slogan qui a été repris dans le monde.
Alors, c'est un fait qui a bien sûr généré beaucoup de réactions déjà aux États-Unis. Et cette phase hein, d'un acte d'un homme blanc sur un homme noir a réveillé hein, des choses que l'on a découvert sous d'autres cieux, mais aux États-Unis, c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire de ce pays-là.
C'est ancré dans l'histoire du pays. Il faut savoir que les États-Unis ont construit leur richesse et leur hégémonie d'abord, en fait, sur l'exploitation des esclaves noirs africains, même si l'histoire de l'esclavage est un petit peu plus complexe. Donc ça, cette violence renvoie effectivement aux heures les plus sombres de l'histoire et renvoie à nos sociétés contemporaines où l'on peut toujours constater des injustices raciales et puis des injustices sociales dans leur grand ensemble. Maintenant, ce combat contre les violences policières est mené aux États-Unis depuis des années et le mouvement Black Lives Matter, qui a été mis en lumière lors de cet incident, en réalité, il fait partie, George Floyd, d'une série de meurtres aux États-Unis où les policiers s'en sortaient en toute impunité. Donc, vraiment, dans cette affaire, ce qui est le fait marquant, c'est que l'injustice a été filmée et visible partout. C'est-à-dire que le racisme a été vu à visage découvert. Voilà. Et là, ça a fait réagir, effectivement, le monde entier en tant qu'être humain. Bon, on est tous touchés, finalement. Donc ça a permis finalement à toute la planète de se sentir concernée par un problème qui, au départ, ne visait que les populations afro-américaines.
Donc, à l'échelle mondiale, on a pu prendre connaissance de ce fait-là et ça a déclenché des manifestations. Et en France aussi, la résonance a été particulière. Et cette résonance s'est retrouvée en télescopage avec une autre affaire, celle dite Adama Traoré. Alors, Michel Bampelli, est-ce qu'il y a des comparaisons à faire entre ces deux affaires, justement?
Alors, pour moi, la comparaison, elle est d'abord dans les faits divers, c'est-à-dire deux hommes noirs décédés tous les deux à cause, en fait, des violences policières. Voilà. Maintenant, ça, ce sont des faits divers qui, malheureusement, s'interposent et la comparaison peut être, dans un premier temps, facile. Donc, c'est des arguments qui ont été repris par le comité Adama et tout leur soutien pour expliquer qu'il y a un parallèle et que pour amener à une forme de prise de conscience. Maintenant, moi, je voudrais amener un petit peu de nuance en expliquant que la France et les États-Unis n'ont pas tout à fait la même histoire. En France, il n'y a pas eu de loi raciale, de loi ségrégationniste. Donc, faut pas oublier que la France, c'est le pays où, l'un des seuls pays au monde où un homme noir pouvait sortir dehors avec une blanche sans se faire lyncher. Voilà, les artistes de jazz dans les années 50 se rendaient à Paris parce qu'ils disaient que la France était le pays de la liberté. Donc, des violences policières touchent, si vous voulez, le monde entier, mais on ne peut pas calquer l'histoire de France avec celle des États-Unis, même si on peut trouver des points communs. Et puis pour finir, les violences policières, on en trouve également en Afrique, on en trouve en Chine, et les Chinois, lors de leurs manifestations, nous donnaient exactement les mêmes témoignages des manifestants que les Américains.
Alors Michel, vous le disiez, comparaison n'est pas raison, hein,
Oui.
mais est-ce que à travers l'histoire récente ou plus lointaine, on peut trouver des mouvements qui pourraient s'apparenter à ce que font les Black Lives Matter aux États-Unis?
En France, on peut parler de la marche pour l'égalité dans les années 80, qui a donné lieu à SOS Racisme, où il y avait déjà une revendication, de la revendication, en tout cas de la marche pour l'égalité, ce qu'on appelait également la marche des beurs, les violences policières. Donc, c'est une thématique qui revient. Maintenant, si vous voulez, il y a une prise de conscience aujourd'hui sur ce phénomène. De la part, un, des politiques et de la part de l'opinion publique qui s'est emparée de cette question et qui ne concerne pas juste des familles ou des associations. Et puis, bien sûr, le mouvement des Gilets jaunes. Pour moi, la véritable résonance est là aussi. Et ce qui est différent aussi avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que on a tous vu des simples manifestants aller revenir en perdant une main et un œil. Et donc, cette violence policière aujourd'hui ne concerne pas que la population afro-américaine ou les minorités en France.
Est-ce que, en ce qui concerne donc la lutte contre le racisme, la lutte, on va dire, contre les discriminations, puisqu'on élargit le spectre,
Oui.
la France, on va dire, a tenu sa promesse?
Il y a un problème en France en ce qui concerne la promesse républicaine qui n'est pas tenue sur l'ensemble de ces territoires. Et finalement, cette lutte contre le racisme, cette lutte contre les discriminations, cette lutte contre les inégalités sociales est toujours. Elle a été, si vous voulez, prise en charge par les associations antiracistes. Il y a deux courants antagonistes. Il y a d'abord le mouvement dit des coloniaux, qui explique justement que la promesse républicaine n'a pas été tenue et qui aujourd'hui revendique des notions comme le racisme d'État, le privilège blanc ou le racisme systémique. et qui reproche justement aux institutions françaises de n'avoir pas pris suffisamment en charge ces discriminations. Et puis d'un autre côté, nous avons un courant qui est plus universaliste et qui rappelle que la France a des principes universalistes et émancipateurs, que la République a aboli l'esclavage en 1747 et en 1848 lorsqu'il est revenu, et cette lutte contre les discriminations et le racisme est menée en fait par la République française. Donc ce sont deux courants qui s'affrontent sur cette thématique, et du coup parce que justement la République a des failles encore en fait sur ces questions.
Alors, le jour où nous enregistrons cet entretien, c'est le 7 juillet 2020, Michel Vampély, et c'est le jour où le nouveau ministre de la Justice a pris donc les rênes de ce ministère. Et dans son discours lors de la cérémonie de passation des pouvoirs, il a déclaré que pour lui, ce ministère de la Justice était également le ministère de l'antiracisme. Qu'est-ce que ça peut vous inspirer comme réaction?
Si vous voulez, ça veut dire que dans son discours, il a tenu compte de ce cri de justice sociale qui se fait entendre partout dans le monde. Et c'est important que les manifestants, que les familles endeuillées puissent en prendre de la part d'un homme d'État le fait à un moment que les institutions, le gouvernement entend ce qui est injuste. C'est très important. Maintenant, ça concerne tous les ministères, pas uniquement le ministère de la Justice. Vous avez un ministère de la Citoyenneté avec Chapa. Vous avez toujours le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes de lutte. Là, c'est plutôt de l'égalité des chances et de la diversité. Je pense que tous les ministères, tout le gouvernement et toute la société doivent se saisir de cette question. Ce n'est pas uniquement le ministère de la Justice.
Donc, si toute la société doit s'emparer de ce sujet, Saint-Michel également et d'autres artistes aussi se doivent aussi d'apporter leur contribution. Comment l'artiste, hein, l'artiste avec grand A, l'artiste en général, Saint-Michel, Michel Vampély, peut se faire entendre sur ces sujets?
Alors, il faut savoir que ces sujets, je les traite depuis plus de 10 ans, puisque je mène des ateliers d'écriture d'abord dans les collèges, dans les lycées, service jeunesse et ailleurs. Et j'ai toujours véhiculé ces valeurs républicaines, ces principes d'égalité, de liberté, de fraternité. Et j'ai toujours mené des ateliers de lutte contre les discriminations. Alors, toute forme de discrimination, surtout celle qui concernait d'abord l'égalité filles-garçons, parce que pour les collégiens et les lycéens, c'est pas toujours évident. Je me souviens d'être tombé dans un lycée où des groupes de jeunes très éloignés, si vous voulez, de la culture, pensaient que la place des femmes était dans la cuisine. Donc, il y a un travail de pédagogie à effectuer au-delà de les activités culturelles. Et je pense que le plus simple, c'est d'aller à la rencontre de cette jeunesse, éloignée parfois de l'emploi, éloignée de la culture, éloignée de l'insertion, et donner des ateliers d'écriture et les aider justement à s'élever par la culture.
Alors ces ateliers, vous les menez depuis 10 ans, et comment se fait la mise en relation? C'est vous qui démarchez ces établissements ou c'est ces établissements qui viennent à vous?
Ça dépend en fait. Lorsque c'est les deux. Si vous voulez, d'abord j'ai été sollicité. L'activité, si vous voulez, a tellement fonctionné, il y a une belle demande de la part des écoles. Du coup, j'ai dû embaucher à un moment des animateurs. Je me souviens, c'était en 2014, je devais avoir 30 animateurs. Donc on était 30 à aller sur le terrain et donner des ateliers. Finalement, j'ai poursuivi mes études, ma thèse, et puis aujourd'hui, ce sont les écoles qui me sollicitent. Mais de toute façon, je peux avoir une approche proactive, c'est-à-dire je peux contacter les établissements, ça fonctionne également. Et puis, voyez, c'est une activité qui fonctionne toujours.
Donc, on peut imaginer voir Saint-Michel au collège Jacques Prévert de Pont-Vallin dans le Sud-Sarthe.
Ah, mais ça c'est bien entendu, et c'est quelque chose que je ferai toute ma vie, quel que soit voilà l'âge, quel que soit mon ma disponibilité, je serai toujours en contact avec les plus jeunes, avec les élèves, pour leur inculquer en plus d'une activité artistique des valeurs universalistes, des valeurs républicaines. Qu'ils aient toujours conscience des droits humains et qu'ils aient toujours cette approche de la culture en disant qu'elle favorise l'échange et le vivre ensemble.
Alors, vous nous expliquerez en fin d'entretien pourquoi est-ce si important à vos yeux de continuer ce travail-là en direction des plus jeunes. Mais avant, j'aimerais que vous nous disiez un mot sur votre sujet de thèse, puisque vous allez bientôt obtenir votre doctorat en sociologie. Alors, le sujet, quel sujet avez-vous choisi?
Alors, c'est la sociologie des cultures urbaines. Donc, elle traite de la prise en charge des cultures urbaines par les industries culturelles, les institutions et leur transmission dans l'enseignement supérieur. J'espère que je l'ai dit de façon pas trop complexe. Donc, en gros, j'évoque la culture hip-hop. Depuis, alors je monte vraiment très loin, c'est-à-dire depuis, j'évoque par exemple le breakdance, voilà la danse qui part d'Afrique, qui voyage finalement aux États-Unis, qui se fait réapproprier par les Américains, parfois ça passe également par les Jamaïcains, et elles arrivent finalement en France. Et une fois qu'une, au départ, cette culture est communautaire. Donc, une fois que elle rencontre des succès par un groupe d'initiés, elle est reprise finalement par l'ensemble de la société et est prise en charge par les industries culturelles, c'est-à-dire les médias, tout ce qui est maison de disques, etc., etc. Et l'explosion du rap, si vous voulez, dans les années 90, sa mondialisation. Et puis, si vous voulez, la démocratisation des pratiques artistiques. Parce qu'elle part d'une communauté qu'aujourd'hui, cette culture est universelle et elle est pratiquée par tous.
Et donc, on peut établir aussi un lien entre cette thèse-là et ce que vous avez initié depuis 10 ans dans les établissements scolaires.
Alors, oui, parce que dans les établissements scolaires, j'enseigne plusieurs choses. J'enseigne la poésie classique, c'est-à-dire celle qui est issue de nos poètes français, les techniques d'un Victor Hugo, d'un Ronsard, d'un Musset. Et puis, je fais le lien, si vous voulez, avec les élèves, avec ce qu'ils écoutent eux. Dire aujourd'hui, les collégiens, par exemple, sont très portés sur le rap. Et je fais le lien entre les deux. Alors comment je peux passer, si vous voulez, d'un booba à ce qu'ils écoutent, par exemple, et j'essaie de les emmener plus tard vers un Victor Hugo, je fais le lien entre eux. Pour moi, c'est important, et surtout que j'avais rencontré Jean-Claude Boulard lorsqu'il était vivant et maire du Mans, et qu'il insistait, si vous voulez, sur le fait de créer un lien entre la culture populaire et la culture universelle. M'a marqué. Marietta Caramoni, qui elle m'avait envoyé également, c'est elle qui m'a envoyé donner des ateliers au tout début, et qui insistait, par exemple, entre le lien qu'il fallait faire entre les élèves qui étaient déscolarisés et d'autres élèves qui étaient à l'université du Mans. Et dans mes ateliers d'écriture, je fais toujours le lien entre leur culture personnelle, même leur culture de quartier, ce qu'ils écoutent, ou parfois leur culture de leur pays d'origine, avec la culture française populaire, classique, et de créer un pont entre les deux.
Ce qui nous amène donc à revenir à la raison pour laquelle il est important à vos yeux de faire ces ateliers, d'animer ces ateliers, puisque vous parliez d'universalisme. On y revient.
Ouais. Ah ben pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est-à-dire que il est important que les élèves ne s'enferment pas dans leur identité, dans leur communauté, dans leurs croyances, et que ils aient, vous voulez, cette conscience d'être citoyen et d'appartenir à une communauté nationale. Il faut qui ressort de ces ateliers, si vous voulez, grandit en tant qu'élève, mais également en tant que citoyen, qui se sent concerné par les valeurs et les principes de la République dans laquelle il vit.
Et que l'art puisse y contribuer. Et quelle est votre plus grande satisfaction, puisque vous me disiez à l'instant que vous pouvez avoir recours au rap, par exemple, et vous savez que cette musique, certains la regardent avec beaucoup d'inquiétude, voilà, pour ne pas dire autre chose. Et quelle est votre satisfaction quand vous pouvez utiliser cet art-là et qu'au final, vous atteignez votre objectif?
Moi, ma plus grande satisfaction, alors ça dépend des élèves que j'ai, mais ma plus grande satisfaction, enfin, j'ai travaillé par exemple avec des jeunes qui étaient déscolarisés, c'est qu'ils se réintéressent d'abord à l'école. Pour moi, c'est là ma plus grande satisfaction, c'est-à-dire que lorsqu'un jeune qui a été déscolarisé, qui après des ateliers revient me voir et qui me dit qu'il veut se réinscrire à l'école ou qu'il veut passer un diplôme, parce que je fais de l'accompagnement artistique et de l'accompagnement voilà, dans toute sa globalité auprès des jeunes, et lorsqu'il peut voilà, se réinsérer, voilà, pour moi, là, ma satisfaction est la plus grande. Donc, c'est pas uniquement sur le plan artistique, ou une autre satisfaction, c'est-à-dire lors d'un atelier, si vous voulez, un jeune me parle du rappeur à la mode, et qu'à la fin de l'atelier, on parle de Nietzsche, voilà, on parle des grands auteurs français, voire étrangers, voilà. Le fait qu'ils soient sortis finalement de leur carcan habituel pour s'ouvrir vers cette culture universelle, ce lien vers l'autre, c'est là où je trouve ma plus grande satisfaction.
Tisseur de liens, constructeur de ponts, quelle image pourrais-je encore trouver? C'est des images qui vous vont?
Oui, c'est des images qui me correspondent tout à fait. Après, il ne faut pas oublier que je ne suis pas seul, c'est toujours un travail d'équipe. J'ai une association qui s'appelle Urbanistique Tours depuis 2009, où voilà, j'ai été rejoint par des slameurs, j'ai été rejoint par des bénévoles. Alors, une association connaît plusieurs vies, mais j'ai aussi travaillé avec des élus qui m'ont insuffler en fait, si vous voulez, ces principes, et qui m'ont élevé moi aussi. Donc c'est un travail qui s'enchaîne, où chacun apporte finalement à l'autre. Donc faut pas oublier, voilà, j'oublie pas mes enseignants et ceux qui m'ont enseigné ces valeurs pour que je puisse les diffuser à d'autres. Donc le pont se fait sur plusieurs niveaux.
Le vouloir vivre ensemble.
Ouais.
Et quand est-ce que vous allez soutenir votre thèse, Michel Bampelli?
Alors déjà, je rends ma thèse demain. Donc je suis à Paris pour la rendre à mon directeur d'études qui s'appelle Jean-Louis Fabiani, qui est très investi depuis des années dans la culture. C'est même un directeur de recherche, pour lui c'est un agrégé de philosophie en plus, et qui a soutenu, je crois, qui a accompagné l'une des premières thèses de hip-hop en France. Je la rends mercredi et j'espère la soutenir pour septembre.
On croise les doigts et puis bien sûr on viendra aux nouvelles. De toutes les façons, vous avez dit que vous viendrez au collège Jacques Prévert de Pontvalin.
Ah oui, bien sûr. Je tiens toujours mes promesses et mes engagements, et je serai ravi effectivement de venir à la rencontre des élèves. Et puis voilà. Bah, je suis enseignant aussi, donc je donne des cours de lettres modernes depuis 5 ans, depuis 2015. Donc j'ai plusieurs casquettes, et alors, une petite anecdote qui me fait sourire, c'est que bon, bah, j'ai donné des ateliers d'écriture pendant vraiment plusieurs années, Et puis, la première fois que j'étais enseignant, j'avais l'habitude de me retrouver devant des élèves, et puis je me retournais pour chercher l'enseignant lorsque je donnais mon atelier. Et finalement, non, l'enseignant, c'était moi, et c'était à moi de prendre en charge toute la classe. Parce que lorsque je suis animateur dans les écoles, habituellement, j'ai toujours l'enseignant qui est là pour tenir la classe avec moi. Et donc, voilà, lorsque j'ai débuté l'enseignement, c'était difficile parce que j'étais tout seul. Voilà, j'avais pas l'habitude d'être tout seul devant les élèves. Et donc, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux.
Et on vous croise sans peine et puis on vous verra à l'œuvre. Merci beaucoup, Michel Vampély.
Ben, merci Ousmane, merci à toute l'équipe de Radio Scolaire parce que vous n'êtes pas seul, vous avez des bénévoles aussi avec vous.
C'est ça.
Donc voilà, donc les remercier également, remercier les auditeurs, ceux qui vous suivent et bien sûr je reviendrai avec le plus grand de tous les plaisirs.
Pour qu'on écrive la prochaine page de cette aventure, de cette histoire qui reste donc à pacifier, à faire de sorte que les uns et les autres veuillent bien vivre ensemble.
Oui, exactement.
Merci beaucoup, Michel Bompéli.
Merci Jocelyn, merci Radio Prévert, à très bientôt.
À très bientôt.